Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Karen Ruth Lenz de Ronan Levracha. La question de Dylan.
Comment créer un sentiment envers Dieu, sachant qu'on ne le voit pas?
Comment créer
un sentiment
envers Dieu, sachant qu'on ne le voit pas? Ah, tu connais la blague là, il y a un siècle environ, il y avait le mouvement d'émancipation, beaucoup de juifs qui commençaient à ne plus croire en Dieu, ils devenaient complètement athées. Alors il y avait le prof à l'école et un élève qui était religieux. Et le prof, comment il leur dit? Il leur dit, ici, il y a une chaise, donc elle existe. Ici, il n'y a pas de voiture, donc elle n'existe pas. De même, Dieu, on ne le voit pas, donc il n'existe pas. Ce qui est logique. Tout ce que je vois, tout ce que je peux percevoir, ça existe. Tout ce que je ne perçois pas, ça n'existe pas. Alors le gosse, il s'est levé, il a dit au copain, vous voyez, le rébé, le prof, là, on ne voit pas son intelligence, donc il n'en a pas. Ça veut dire que le petit gosse a compris qu'il y a des choses qui, bien qu'on ne les voit pas, existent. Ça me rappelle maintenant, il y avait une fois, c'est dur de parler à des gosses qui sont très jeunes. Un gosse a posé la question, il dit, qui me dit que Dieu, comment ça se fait que Dieu, il existe alors qu'on ne le voit pas? Alors j'ai pris sur place mon char, je lui dis, regarde, je lâche ça, qu'est-ce qui se passe? Ça tombe, pourquoi? C'est quoi la gravité? Il y a une force. Il y a une force, n'est-ce pas? Tu ne la vois pas, pourtant elle est là. Donc on peut comprendre qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, mais qui existent. Maintenant, c'est vrai qu'il est dur de développer un sentiment et une relation avec une chose qu'on ne voit pas, qui ne réagit pas quelque part, d'accord? C'est pas du tac au tac. Si encore ça réagissait, d'accord? Je vois pas ton intelligence, mais je te parle, tu me réponds, d'accord? Je dis une bêtise, tu réponds, c'est idiot. Je dis une chose intelligente, tu dis oui, c'est logique, on fait la gamme ensemble, je fais un raisonnement, il n'est pas bon. Donc ton intelligence, je ne la vois pas, mais je la perçois. HM, on l'appelle, on prie, on pleure, on rit, tout ce que tu veux, pff, silence radio, d'accord? C'est pas facile. Il faut savoir qu'on a en nous une partie qui s'appelle la Neshama, qui est divine. Et grâce à elle, on peut se brancher à Dieu. Si on n'avait pas ça, on ne pourrait pas. C'est la grande nuance qu'il y a entre, la grande différence qu'il y a entre l'animal et l'être humain, c'est ça. Ce n'est pas le simple fait que l'être humain peut parler et l'animal ne parle pas. L'être humain, goy ou juif, a en lui une partie divine, qui lui permet de pouvoir percevoir Dieu. Un animal, même s'il essaye, on va l'apprivoiser des années et des années à percevoir Dieu, il ne va jamais rien percevoir, c'est impossible. Un être humain, c'est possible. Encore faut-il qu'il développe cette partie qu'il a en lui. Et ce n'est pas facile, parce que cette partie, elle vient très tard dans la vie de l'être humain. Quand on est né, on n'a pas de Neshama. Alors comprenez bien ce que je veux dire, parce que Neshama, Il y a cinq niveaux. Nefesh, Ruach, Neshama, Hayechida. Les deux derniers, on n'en parle pas, ils sont très hauts. Alors on va dire trois. Nefesh, Ruach, Neshama. Ce Nefesh, Ruach, Neshama, lui-même, dans le Nefesh, il se subdivise en trois. Nefesh, Ruach, Neshama. Donc tu as Nefesh de Nefesh, Ruach de Nefesh, Neshama de Nefesh. Après tu as Nefesh de Ruach, Ruach de Ruach, Neshama de Ruach. Après tu as Nefesh de Neshama, Ruach de Neshama, Neshama de Neshama. Attends, le Nefesh de Nefesh, le plus bas. Lui aussi, il se subdivise en Nefesh, Ruach, Neshama. Donc on parle qu'on n'a pas de Neshama, ça veut dire qui, quoi, comment. On a une pierre aussi, elle a une partie de Neshama. Mais je parle, disons, de la grande Neshama, celle générale. Quand on est, on ne l'a pas. C'est écrit qu'on la reçoit à l'âge de 20 ans. Et on reçoit déjà quelques parties entre 13 et 20, le rouar. Ce qui fait qu'avant l'âge de 13 ans, il n'est pas possible qu'un enfant puisse être en relation avec Hachem. Il peut savoir qu'Hachem existe. Il peut prier Hachem, faire toutes les mitzvot, etc. Il peut avoir une très grande peur de faire des péchés, un très grand bonheur de faire des mitzvot, mais il n'a pas encore de relation. Pour être en relation, il faut qu'on ait quelque chose de commun. Si on n'a pas quelque chose de commun, il n'y a pas de... D'accord, c'est la puce, d'accord. Il faut une puce qui est conforme au réseau qu'il y a ici, d'accord. C'est une puce pour l'étranger, pas pour Israël. Ça ne marche pas. Il faut qu'on parle le même langage. La Neshama qui est divine, qui est en nous, elle peut se mettre en relation avec Hachem, et dès que notre Neshama se met en relation, ça rayonne en nous. C'est un écho. On peut commencer à percevoir cela. La question est, oui?
Mais quand on peut se marier dès 13 ans.
Oui, on peut se marier sans Neshama. Il y a des parties, mais la grosse Neshama, on l'a reçu à l'âge de 20 ans. C'est pour cela que le jugement, il est écrit, qu'on n'est pas jugé jusqu'à l'âge de 20 ans, en haut. Dès l'âge de 13 ans, on est jugé ici sur Terre. Avant 13 ans, quelqu'un prend une pierre, jette dans une vitre du voisin, on ne peut pas faire payer à l'enfant le dégât fait.
C'est les parents.
C'est les parents qui paieront. Ils ne sont pas obligés. Ils peuvent dire, c'est notre enfant, on ne peut pas. Personne.
Mais pourquoi les parents ne font pas ça, alors, comme ça, personne ne paye?
Alors, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas obliger la personne à payer ici, dans ce monde-ci, mais dans l'homme à balle, on le fait payer, sa vitre cassée. Alors, les parents qui aiment bien leur gosse, ils disent, écoute, c'est dommage que tu ailles en enfer quand tu iras au l'homme à balle, donc on paye la vitre pour toi.
Ah, si vous vous mariez avant d'avoir reçu cette personne de chemin.
Aucune différence. C'est marqué. Chazal dit, il faut se marier à l'âge de 18 ans. Si on peut se marier, aujourd'hui, rares sont les personnes suffisamment matures à l'âge de 18 ans pour pouvoir se marier, donc il faut être au moins mature, sinon après, on part dans le. Déjà comme ça c'est dur, alors quand on n'est pas mature, ça part complètement en cacahuète. Revenons à notre question. C'est marqué que jusqu'à l'âge de 20 ans, on n'est pas jugé dans le bédine d'en haut pour les péchés qu'il y a entre l'homme et Dieu. Entre l'homme et son prochain, oui. Entre l'homme et Dieu, non. Alors c'est certain que ce n'est pas à prendre à la lettre, que je peux manger du porc, faire Hilou Shabbat, manger à Kippour, il n'y a rien qui se passe. C'est certain qu'il y a des dégâts. Ils ne sont pas aussi grands. Pourquoi? Pour la bonne raison que je dis, qu'on n'a pas encore la Neshama. La Neshama, c'est un potentiel énorme, divin. Plus tu as un potentiel énorme, plus tu peux monter, mais plus tu peux faire des dégâts. On va dire comme ça, le Nefesh qu'on a, c'est comme une trottinette. En trottinette, tu roules. Ok, c'est quoi la vitesse maximale d'une trottinette? Allez, c'était très bon, 50 km à l'heure. Déjà, entre 50 km à l'heure. Allez, 40 km à l'heure, hein, on va dire. Maintenant, tu dévis, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu te fais un bobo au genou. Bon, tu peux saigner, c'est pas sympa, ça fait mal, mais c'est qu'un genou cassé, on va dire, ou endommagé. Le Nefesh, c'est déjà la voiture, la Ferrari. Ferrari, c'est pas du 40 km à l'heure, c'est du 300 km à l'heure, si tu veux, d'accord? Au-dessus des radars. Mais tu dévies un peu avec la Ferrari, ça c'est pas le genou cassé, c'est terminé. Mais il y a encore ton cadavre, ah, c'est pas le tien, celui du conducteur de la Ferrari, il est encore là. Ça c'est le rouar. La Neshama, c'est la navette spatiale. C'est 20 000 km. Alors, je ne me trompe pas, au moins. Et si on dévie un peu, ben, il n'y a plus rien. Même pas une dent. Alors, les dégâts sont beaucoup plus grands, mais tu compares une trottinette à une Ferrari avec un navette spatial, ce n'est pas comparable. La Neshama, c'est énorme comme potentiel. C'est celle qui nous permet de mettre en relation avec Hachem. Maintenant, c'est comme un muscle. Si on va le travailler, il va grandir, il va fortifier. Sinon, il va s'amoindrir. Le Rambam, il a écrit un très grand livre qui a fait de lui qu'il était connu dans le monde goy, le monde non religieux, c'est le Guide des Égarés. C'est le livre qu'il a fait dans le monde religieux, le livre qu'il a fait non connu, d'accord. C'est pour ça, s'il y a des raisons pour lesquelles il y a certains grands rabbins de tous les temps qui ne sont pas d'accord avec le Rambam, à cause de ce livre-là. Le Rambam, chez nous, sa grandeur, c'est le Mishneh Torah. C'est Yad HaZaka, c'est il a fait une synthèse de toute la Torah, de toutes les lois de la Torah. C'est une œuvre gigantesque, d'accord. Après, quand il était plus vieux, il a écrit ce livre de philosophie juive, Le Guide des Égarés. Dans ce livre-là, il y a trois portails. Dans le chapitre 51 du troisième portail, il y a une note. C'est la seule note qu'il y a dans tout ce livre-là. C'est un brique, hein, un gros livre, il y a une note. Et là-bas, il explique, il dit comme ça. Ton moyen de relation avec Dieu s'appelle le sechel. Le sechel, en français, c'est la raison. Il faut comprendre que ces parties dont je parle maintenant, Nefesh, Ruach, Neshama, on peut les percevoir en nous. Le Nefesh, c'est les pulsions animales. La faim, l'instinct de conservation, la paresse, la colère, la vengeance, la jalousie. Là aussi, il y a plusieurs niveaux. Tu as tous les systèmes régulateurs du corps qui sont indépendants de toi. Que tu veuilles ou pas, ton corps, il bat. Que tu veuilles ou pas, t'entends. Tu peux pas ouvrir les yeux et ne pas me voir. Ne me regarde pas, avec les yeux ouverts. C'est très dur. Et il y a des choses que tu maîtrises. Tu peux maîtriser maintenant ta main. D'accord ? Des choses que tu ne maîtrises pas. Donc il y a plusieurs niveaux aussi au niveau du Nefesh. Ruach, c'est le côté plutôt sentimental. Neshama, c'est la raison. Quand le sentimental au roi, c'est sentiment, imagination, pensée, d'accord, mais c'est sentimental et imaginatif. La Neshama, c'est déjà quelque chose qui est hors du corps. C'est un éclairage divin qui permet de voir des choses que le corps ne voit pas. Par exemple, une question que les enfants posent très souvent, et les grands-enfants qui sont encore petits dans leur esprit, qui ont des fois 30-40 ans aussi, la posent. Ils disent, qu'est-ce qu'il y avait avant Dieu ? On dit, non, mais Dieu est infini, il a toujours été. Donc, tu verras un gosse de 8 ans, tu lui dis, dis-moi, Dieu, il a commencé quand ? Il dit, oh, c'est une bonne question que je me pose, le gosse. Quand ? Tu lui dis, bah, il a toujours été. Le gosse, il dit, je ne comprends pas. Ok, il a toujours été, mais avant. Avant. Il y a bien un moment où ça a commencé. Non, ça a toujours été. Alors, ok, lui, il fait comme ça. Mais tout au début, là, avant. Pourquoi il dit ça comme ça ? Parce que sa façon de penser fonctionne d'après l'imagination. L'imagination, comme le terme l'indique, ça vient du mot « image ». Maintenant, image et infini, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas ensemble. L'image, elle est finie forcément. Je ne peux pas avoir une image de l'infini. Est-ce qu'on peut imaginer l'infini ? Impossible. Celui qui fonctionne, donc qui est encore petit dans sa tête, c'est tous les enfants, une bonne partie des adolescents, et hélas aussi une partie des adultes, ne peuvent pas imaginer l'infini. Et quand on parle d'infini, pose la question, oui, mais avant. Parce qu'ils voient l'infini dans leur outil qui est l'imagination. Rouar, c'est encore petit. Quand il va arriver à être plus haut, il est maintenant infini. Il comprend qu'il ne peut pas imaginer ça, mais il peut concevoir qu'il y a une chose qu'il ne peut pas voir. Il ne peut pas imaginer cela, mais ça existe. L'infini. Ça a toujours été, depuis toujours. Je n'arrive pas à saisir ça dans mon imagination, dans la réalité physique des choses. C'est vrai que chaque chose qui est physique, elle est finie. Mais tu peux comprendre maintenant qu'il y a une chose qui n'est pas physique et qui est infinie. Tu peux saisir, hein ?
On peut comprendre quelque chose qu'on ne saisit pas.
Avec la raison, sans vouloir l'imaginer. Si on veut imaginer, on arrive à une contradiction.
Est-ce qu'on doit comprendre Dieu ?
Qu'est-ce que tu appelles comprendre ?
Comprendre Dieu, comprendre son illumination.
On peut comprendre les choses qu'on peut comprendre, les choses qu'on ne peut pas comprendre. On peut comprendre Dieu, quand on parle de lui, on parle toujours de façon négative. On ne parle pas de ce qu'il est, on parle de ce qu'il n'est pas. On ne sait pas ce qu'il est, personne ne peut savoir ce qu'il est vraiment, si ce n'est lui. Lui-même, béni soit-il. On peut parler de ce qu'il n'est pas. Il n'a pas de forme, il n'a pas d'image, il n'a pas de fin. Ok ? Donc infini, ça veut dire qu'il n'a pas de fin. Je peux comprendre qu'il y a une chose qui n'a pas de fin. Tu dis, voilà, il y a une chose, je vais le parler négative. Je vais le parler négative. Ça, c'est une fin ? Ok, maintenant je prends un million, deux milliards, deux milliards d'années. C'est un début, c'est une fin ? Oui. Il y a une chose qui n'est pas comme ça. Elle n'a pas de fin. Elle n'a pas de début, pas de fin. Je n'arrive pas à le voir dans mon esprit, parce que je ne veux pas voir, parce que c'est une image, et Dieu, on ne peut pas le voir. Je peux comprendre que ça existe par la négation.
Donc comprendre qu'on ne comprend pas, en fait, c'est ça ?
Si. Tu comprends très bien, je peux très bien comprendre qu'il y a une chose qui n'a pas de fin. Je ne peux pas le voir. Il faut la nuance. Vous appelez comprendre, c'est imaginer. On ne peut pas imaginer. Il faut comprendre qu'on peut comprendre des choses qui ne sont pas dans le domaine de l'imagination, qui sont plus. Et ça, on rentre déjà dans la raison. Et le Rambam dit, la raison, c'est dans cette note-là, troisième portail, chapitre 51 du Guide des Égarés, il dit comme ça, ce serait donc cette raison pure, c'est ton contact avec Hachem. Plus tu vas le travailler, plus il va s'élargir, et tu auras une relation puissante avec Hachem, ou tu es libre de l'atrophier, tu ne vas pas le travailler, donc ça va s'atrophier, ben, au moment, tu ne seras rien, tu vas prier, il dit, c'est comme si tu vas comme un bûcher qui prend sa hache, qui coupe du bois. Tu pries, tu fais les mitzvot, mais c'est un acte physique dénué de toute relation avec Hachem. Il faut comprendre que si on se met en relation avec Hachem, on doit en parler. Et il faut le connaître. Le Rambam, il écrit à la fin de l'Hotchoua, il est clair qu'on peut, il parle de l'amour de Dieu qu'on doit avoir. Il est plus qu'une femme. plus qu'un homme qui est amoureux d'une femme à laquelle il pense quand il dort, quand il se lève, quand il boit, sans cesse, il est fou d'elle. Cholat ahava, ni je suis folle, je suis malade d'amour. C'est marqué dans Shir HaShirim. Je suis malade d'amour. Plus que cela sera l'amour de ceux qui aiment Dieu. C'est un amour extraordinaire, immense. Comment on fait ? Il dit, il est clair qu'on ne peut arriver à cet amour que par la connaissance. Plus il y a de connaissance, plus il y a d'amour. Moins de connaissance, moins d'amour. Donc il faut connaître Hachem. Comme tu dis, comment je peux aimer une chose que je ne connais pas ? Connaître Hachem, ce n'est pas avec le corps, ce n'est pas avec le sentiment, ce n'est pas avec l'imagination, c'est avec le sechel, avec la raison pure. Et quand on fait un cours comme celui-là où on parle de Dieu, au bout d'un moment, ces choses, lentement, ça rentre, on peut y penser, etc. Au bout d'un moment, on peut commencer à développer en nous, à élargir ce tuyau qui s'appelle la raison pure de relation avec Hachem. Et si on ne le fait pas, on l'atrophie et on peut devenir complètement obtus. Maintenant, ça, c'est le début. Il faut travailler sur plusieurs axes. Oui.
Comme je l'ai dit, l'enfant qui pose la question, lui, son domaine, c'est quand il dit avant, son seul domaine limité, c'est le début de nous, en fait.
J'ai pas compris.
Son domaine limité à nous, notre domaine,
oui,
c'est le début de nous. C'est pas le début d'Hachem. En fait, quand il dit ça, il dit le début de Dieu. Il dit sûrement qu'est-ce qu'il y a avant nous. Qu'est-ce qu'il faisait
Hachem
avant nous?
Pas forcément. Non, lui, il peut comprendre qu'avant nous, il y a du passé. Il a vu. Il sait qu'il y a eu la sortie d'Égypte, qu'il y a eu d'autres choses dans le passé. Il y a eu la création du monde. Et ce qui a créé le monde, il y a eu Dieu. Ok, alors Dieu, il était là avant le monde. Et qui était avant Dieu?
C'est déjà une chéla de se dire.
Hein?
C'est déjà une chéla inconcevable de se dire avant la création.
Parce que... Ah oui, on le dit, il lui fait Bereshit. Bereshit, non, il ne sait pas, c'est pas, lui, c'est pas, il y a pas, c'est au-dessus du temps, il ne comprend pas ça, qu'il n'y a pas le temps. Lui, il dit, il y a la création, Dieu a créé le monde, ok. Un temps X, il y a 5775 ans. Et avant, il y avait Hachem. Ok, avant Hachem.
Le créateur.
Bon, il y a le créateur, il y avait bien un premier, non?
Surtout quand Dieu a créé le monde, il a créé le avant et le après, c'est lui qui a créé les notions de ça. Donc,
oui, d'accord, après, ça tu parles comme un adulte.
L'obscurité, il y a, c'est pas dans l'amas où il était là. Enfin, c'est ce qu'on dit, non, dans la Bible. Ce que tu dis toi, peut-être.
Non, non, au contraire, il y avait beaucoup de lumière au début.
Non, il a créé la lumière, on dit.
Ouais, il a créé la lumière, en fait, il sait qu'il a caché sa lumière. Ça te permet de la voir.
Ah, d'accord.
Je te mets un projecteur de 20 000 watts dans les yeux, tu vois tout noir. Ça, c'était avant. Ouais. Là, il a mis des filtres, et là, t'as vu plein de lumière. Plus la lumière est grande, plus on ne peut pas la supporter. Plus Dieu met des filtres, que ça nous permet de commencer à le voir. Bon, c'est une parenthèse. On revient maintenant aux autres moyens de se mettre en relation avec Hachem.
Quand il fait là, il se met des filtres.
Pardon ?
Quand il fait il se met des filtres.
Bien sûr, des mauvais filtres. Trop de filtres. Ouais, il met des écrans, c'est plus un filtre, c'est un écran.
Quand il fait l'aéro de ses journées, à la fin, il va avoir du très bon air.
Non, non, justement, non, non.
Il réduit l'espace des lumières, en fait.
Voilà, il réduit. Il va. Alors.
Il n'y a pas des événements tellement graves que
non.
Ça efface pas tellement les écrans.
La tchouva répare tout, mon cher ami. Non seulement elle répare, mais elle transforme en mérite.
Quelqu'un a fait un enfant, il ne va pas se transformer.
Hein ?
Quelqu'un a fait un enfant avec la voisine, il ne va pas se transformer.
Et alors ?
Il ne va pas se transformer, il peut faire tchouva, mais
l'enfant, il existe.
Il répare à tout. Et donc on est très loin de notre sujet, on revient maintenant sur le sujet. Attends, comment on va faire sur le terrain pour se mettre en relation avec Hachem? Il faut qu'en moi, il y ait une résonance maintenant de Hachem. Ça rejoint ta question, David, de hier, que tu voulais qu'on traite, c'était sur la Yirat Shamayim, la crainte de Dieu. D'accord? Toi, tu me poses la question, c'est quoi la crainte de Dieu? Alors, la crainte de Dieu, à un autre niveau, ça doit se traduire pas par une crainte, mais par une conscience. On va appeler ça conscience de Dieu. À un niveau très haut, ça devient crainte, parce que Dieu, il est tellement immense que si on se rendait compte, vraiment, ça fait très peur. Un autre niveau qu'on est tellement nul, alors on va dire conscience de Dieu. Conscience de Dieu. Comment je peux intégrer dans ma vie tous les jours une conscience de Dieu? Tout simplement par l'investissement. Plus je vais m'investir dans Dieu, plus il y aura une résonance. C'est comme dans le cadre du couple. Dans le couple, comment on fait pour aimer sa femme? D'accord, j'ai déjà parlé de ça dernièrement ici. D'accord, Dieu ordonne d'aimer sa femme. J'aime pas. Comment je peux faire pour l'aimer? Dieu m'ordonne de l'aimer. Je vais investir. Je dois faire des efforts. Au bout d'un moment, ça crée chez toi une attache à la chose pour laquelle tu fais des efforts.
Mais c'est pas de retour.
Mais c'est pas de retour. Au contraire, c'est de retour, c'est pas un effort, c'est pas un don. Si un retour, c'est un investissement, c'est pas un don. Un don, c'est donner pour pas recevoir. C'est connu que dans les familles où il y a un enfant qui est handicapé, les parents vont investir beaucoup plus dans l'enfant handicapé, et bien il aime beaucoup plus. À un point tel qu'il faut faire des cours, leur dire, faites attention aussi aux autres qui ont besoin de votre affection. Les enfants, d'habitude, qui ne sont pas handicapés, qui sont très bien, et bien ils souffrent qu'il y a trop d'attention à la personne, au frère handicapé.
C'est une jalousie, quoi.
Pardon ?
C'est une jalousie.
C'est une jalousie. C'est un besoin.
Et après, il y a des enfants qui sont assez matures pour...
Un enfant, il n'est pas mature. Un enfant, il a besoin de l'attention de ses parents. C'est important. Il faut savoir donner à tout le monde ce dont il a besoin. Chose très dure. Mais c'est ce qu'il faut idéalement. Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Demande à des parents, vous voulez un enfant anormal ? Jamais de la vie. Comment c'est qu'ils l'aiment tellement ? Ils aiment beaucoup leur enfant qui est beaucoup moins réussi que les autres. Il est handicapé. D'accord ? Du fait qu'on a investi beaucoup, on aime. D'aime avec Hachem. Comment je commence à avoir une relation avec Hachem ? Le Rav Nissan, il écrit dans son livre Zichron Hadassah, il écrit, c'est quoi la Yirat Hashem, la crainte de Dieu ? C'est la mesure dans laquelle je respecte la volonté de Dieu. Tu veux maintenant faire une bracha. Tu peux la faire avaler sans même penser ce que tu dis, ou attendre, tu vas rajouter 2 secondes ou 3 secondes dans le temps que tu prends de faire la bracha. 3 secondes, c'est beaucoup ? C'est rien dans la vie. C'est énorme. Faire le bracha lentement, c'est de moi un effort énorme. Baruch, Atta, Hachem, béni sois-tu Hachem, Elokeinu. Elokeinu, vous pensez, maître de tout. Celui, c'est Takif, puissant, maître de toutes les forces et qui a tous les pouvoirs. Maître de tout. Melech Olam, roi du monde. Shakol n'y a vu de voir que tout a été créé par sa parole. Et tu bois. Quand tu bois comme ça, mon cher ami, tu as arrêté un moment de vivre dans le train-train, tu t'es arrêté, tu as pensé à Dieu. Pendant 7 secondes. Ça fait une empreinte dans ton cœur. Et cette empreinte, en plus, elle sera bien inscrite dans ton cœur. Pourquoi ? Parce que ça nécessite un effort. Ce qui demande un effort, ça reste inscrit en nous. Ce qui ne demande pas d'effort, c'est connu. Nous, on essaie de mémoriser la Gemara. D'accord ? Très dur. Les Gemarotes qui sont durs à comprendre, que tu as beaucoup investi, tu as discuté, tac, 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 ça reste imprimé dans la tête. Ce que tu as compris du premier coup, après une journée, tu as tout oublié. Ce qui vient avec effort reste. Ce qui vient sans effort s'oublie. Tu as fait un effort maintenant. Donc tu as fait un investissement pour Hachem dans ton cœur. Maintenant j'arrête. Je vais louer Hachem. Et je pense à ce que je dis. Ça fait une inscription dans ton cœur. Hachem existe. Il fait partie de ma vie. Et je fais des efforts pour lui. Je respecte. Le matin, tu dois te lever pour la prière. C'est très très difficile. C'est bon d'être dans le lit. Et en hiver, encore plus. Quand il fera dans la chambre, encore plus. Et quand on se lève pour aller à la prière, une longue prière, encore plus bon dans le lit. Tu te lèves maintenant de façon artificielle, difficilement, pour Hachem. C'est un investissement d'une valeur énorme. Ça fait une empreinte, tac, dans ton cœur encore. Au bout d'un moment, tu deviens Hachem, c'est une partie intégrante de ta vie. Il vit avec toi. Tu es avec lui. Et au bout d'un moment, il y a un feedback. Il y a un feedback. Bien qu'Hachem, il n'ait aucune relation avec nous, par la Neshama, qui est le biais divin que nous avons, il y a une relation qui se met en place.
Un feedback.
Il y a un feedback, un retour. Un retour. Un retour de perception, de résonance en nous de la présence d'Hachem. On peut appeler ça la Kedusha, la sainteté. Au bout d'un moment, il y a des choses qui... Tu perçois des choses. Par exemple, la différence entre quelqu'un qui est mort, qui a beaucoup travaillé pour arriver à saisir quelque chose, à percevoir, quelqu'un qui est déjà vivant, il y a certaines mitzvot qui relativement facilement permettent de percevoir Hachem. Une qui est le plus facile, c'est le Shabbat. Le Shabbat, il y a, à part la nappe qui est blanche et les bons plats, il y a une certaine brillance dans l'air. D'accord ? Quelqu'un qui n'a pas goûté au Shabbat, tu ne pourras jamais lui expliquer ce que c'est. Il dit... Il faut que tu goûtes. Il va essayer de goûter 3-4 fois, c'est insupportable. Le portable, l'Internet, les télécommandes, il lui faut des touches, d'accord ? Rien, pas touche, rien du tout. C'est comme ça pendant 26 heures. Ceux qui fument, encore plus dur. S'il tient bon, 4, 5, 6 Shabbatot, il fait tout comme il faut bien, C'est super rapide. La tuyauterie divine se débouche. Au début, c'est bouché. Donc, branche les matières, il ne peut pas, parce que on ne peut pas faire Shabbat. Donc, il n'est pas branché les matières. Il veut se brancher céleste, spirituel, c'est tout bouché. Il crève. C'est très dur pour lui. Il tient bon. 5-6 Shabbatot maximum. Après 5-6 Shabbatot, tout coup, il y a un truc qui passe. Et il perçoit. Il perçoit quelque chose. Ceux qui ont vécu en faisant Shabbat toute leur vie, c'est beaucoup plus dur parce que l'habitude a fait qu'au bout d'un moment, l'habitude, elle tue toute perception. Ça fait que ça devient mort, on ne sent plus rien. Mais quelqu'un qui n'a pas fait Shabbat, qui commence à faire Shabbat, au bout d'un moment, c'est extraordinaire. L'étude de Torah. Si on s'investit, sans parler d'autre chose, quelques bonnes heures de suite, 2-3 heures, en Gemara, c'est dur, on fait des efforts, au bout d'un moment, on sent quelque chose. Tu sens que tu es comme un petit nuage, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est pas, t'as fait pendant 5-6 heures, tu as fait des maths. Tu sens que ta tête est pleine de maths. Non, là, tu es occupé de Dieu. C'est la volonté divine. Au bout d'un moment, ben, ton être, il y a une tuyauterie comme ça, céleste, qui fait que ça commence à résonner en toi. Si on a senti Yom Kippour, Rosh Hashanah, les grands jours, quand on sent, si on sent quelque chose, dire que notre Neshama, elle est là, elle est présente. Plus que cela, je peux vous montrer à quel point la Neshama elle est présente. Tu es dans l'avion maintenant qui part à Paris. Tu es à Lyon, toi ? Hein ?
Paris.
Dans l'avion qui part à Paris. Et, coup de toile, tu as un jeune homme de ton âge. Tu es dans Air France. Toi, tu as pris le plat cachère Bedin, que je ne sais pas à quel point il est cachère. Et lui, il a pris le pas de Air France, que c'est certain, c'est pas cachère. Bon, vous discutez. T'as qu'une envie, c'est quoi ? Hein ? De manger son plat. Lui en a noté un. T'as envie de le convaincre. C'est dommage. C'est tellement beau la Torah. C'est vrai ou pas ? Non ?
Non, t'as de la peine pour lui.
T'as de la peine pour lui. Tu connais pas le Emmet. Alors toi, maintenant, tu as envie de le convaincre. Pourquoi tu veux le convaincre ?
Est-ce que ça fait la peine d'avoir un juif qui fait la joie ?
C'est pas ton affaire.
Parce qu'on se sent pas...
Qu'est-ce qui te pousse ? Hein ?
Mais donc, c'est notre affaire, justement.
Pourquoi ?
Parce qu'on est tous dans le même bateau. Il y a eu une métaphore comme ça tout à l'heure.
Ouais, c'est un frère à nous.
On ressent Dieu et justement, on veut lui faire partager ce ressenti. Partager ce ressenti en fait, on lui dire voilà, regarde, il y a vraiment un Hachem qui existe et par la preuve de son repas, et eh ben tu peux lui montrer que voilà, t'es un petit peu concerné quoi aussi.
Donc, tu dis comme la ville, quoi, tous dans le même bateau. Donc, tu fais pas ça pour lui, c'est pour toi.
Non, c'est pour tout le monde.
Pour tout le monde, pas le peuple d'Israël.
C'est le stress qui va dans le temps en fait.
Qu'est-ce que t'en as à faire du peuple d'Israël toi? Attends, je comprends pas. Si lui, maintenant, il mange sa saucisse de lard, quoi, demain, t'auras un problème...
Rafé Shalom, peut-être.
Bon, c'est très aléatoire. Très aléatoire. Tu vas maintenant lui parler parce que t'as peur. Oulala, ce type-là, si je ne convainc pas d'arrêter de manger du lard, demain, je vais ratater une maladie, une sale maladie sur le crâne. C'est ça qui te fait...
Alors, c'est quoi? C'est parce que
l'amour.
Non, je me rends compte qu'il a les yeux fermés, que j'ai les yeux ouverts. Donc j'ai envie de lui faire partager tout ça.
Pourquoi?
Parce qu'on l'aime.
On l'aime.
Bah oui, on l'aime. Très cède. Si on ne connaît pas, on l'aime. Ça veut dire que.
Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Vous êtes sensible à la vérité. Et vous voyez que le type est en train de se tromper. Et cet amour de la vérité que vous avez, il vous donne envie de le faire partager cela aussi. Il y a un Sifri. Sifri, c'est un Midrash Lacha, c'était écrit il y a 1800 ans. Sur le verset, Vavta Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tout ton cœur, ton âme, tout ton pouvoir. Ketsad, comment l'aimer ? Comment l'aimer ? J'écris une lettre d'amour à Dieu, c'est quoi ? L'Aïd Otolacherim, le faire aimer par les autres. Quand tu vois un juif, et tu as une envie de le convaincre maintenant de la beauté de la Torah, ça prouve que tu aimes Dieu. Tu ne fais pas, parce que tu as peur. Donc, c'est une maladie. Tu ne fais pas parce que tu as peur que le peuple d'Israël ait une maladie, tu as envie, tu aimes Hachem. Tu veux que lui aussi partage cette chose-là. l'envie que nous avons en nous de convaincre quelqu'un d'autre de la vérité, ça prouve qu'on a, nous, un amour de la vérité. La vérité, c'est une enveloppe de Dieu. Ça revient à peu près au même. Dieu et vérité, c'est à peu près la même chose. D'accord ? C'est dur pour nous de parler d'amour de Dieu. Alors, quand on n'est pas au niveau encore de parler d'amour de Dieu, on va parler d'amour de la vérité. Quelqu'un qui quitte tout, qui vient ici à la yeshiva, il est motivé par quoi ? L'amour de Dieu, je ne sais même pas ce que c'est. Mais il cherche la vérité. Il est en quête de vérité, il veut un sens, il veut comprendre, il veut savoir qu'est-ce qui est juste de faire. Ça provient de l'aneshama. Il n'a rien à gagner là-dedans. Point de vue physique, il a tout à perdre. Et le fait, c'est un amour de Dieu. Cette chose-là que vous avez, qui est très grande, il faut la cultiver, y penser, et après la mettre en pratique. Plus souvent dans ta vie, tu vas faire des efforts pour Hachem, des investissements pour Hachem. Au bout d'un moment, ça a une résonance chez toi très grande. Cet amour que tu as de Dieu, il est vivant chez toi, et ça te pousse à faire encore plus. Au bout d'un moment, tu deviens un vrai amoureux. Tu fais tout par amour de Dieu, et là, c'est le très haut niveau déjà qu'on souhaite à nous tous. Baruch Adonai, Amen.